Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quand le football sert d'alibi à la diplomatie, la Coupe du Monde s'ouvre aujourd'hui en Russie, dans 11 villes, 12 stades, 4 fuseaux horaires. Événement attendu, évidemment, qui ne doit pas faire oublier la politique de Vladimir Poutine, sa fermeté face à ses opposants. Nous appellerons notre correspondant à Moscou.
Et puis dans cette édition aussi, nous entendrons l'ONG CARE à propos de la guerre au Yémen. Elle interpelle la France alors que les forces fidèles au président en exil ont lancé l'assaut hier contre le principal port du pays, Hodeïda.
Un axe commun des ministres allemands, autrichiens, italiens de l'intérieur contre l'immigration illégale. Le chancelier autrichien l'a proposé hier, profitant de la tension diplomatique créée par la demande du bateau, l'Aquarius.
Et puis les retraités toujours mécontents en France, ils manifestent aujourd'hui contre la hausse de la CSG. Un rapport explique d'ailleurs que la caisse d'allocation retraite ne sera à l'équilibre que dans 18 ans.
Faut-il privatiser les bijoux de famille? Aéroport de Paris, Engie, la Française des Jeux, l'incohérence du gouvernement dans le billet politique de Frédéric Seyss dans un gros quart d'heure.
Надеюсь, незабываемые впечатления.
J'espère que vous garderez des impressions inoubliables et que vous découvrirez aussi la Russie, sa culture unique, son histoire particulière et ses paysages très variés. J'espère que vous ferez connaissance avec son peuple très cordial, sincère et amical. Nous avons tout fait pour que nos invités se sentent chez eux en Russie. Nous avons ouvert notre pays et notre cœur au monde.
Et voici donc Vladimir Poutine, regard confiant face caméra, le Kremlin derrière lui, à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football dans son pays. Un événement attendu par des millions de personnes à travers la planète, vitrine surtout de la puissance russe retrouvée. Ce mondial avait été attribué à la Russie en 2010 sous des promesses d'ouverture. 8 ans plus tard, le pays a changé. La main de Vladimir Poutine, de retour au Kremlin en 2012, sa main est plus ferme, encore plus assuré. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Claude, avec ce mondial de football, Vladimir Poutine compte faire une démonstration du soft power russe, de son pouvoir de convaincre.
Oui, avec un bémol tout de même, Clara. Le Kremlin, vous savez, n'est pas dupe et c'est bien que même si cette Coupe du Monde est réussie, eh bien les grandes puissances comme les USA ou la Chine ne vont pas du jour au lendemain changer leur logiciel vis-à-vis de la Russie. Alors c'est vrai, Vladimir Poutine espère d'abord et avant tout que cette Coupe du Monde de football soit une fête, il l'a dit, et ce n'est évidemment pas uniquement à usage interne. 3 milliards de téléspectateurs vont pour une bonne partie d'ailleurs d'entre eux découvrir quelque part la Russie à travers l'événement, et l'objectif principal, c'est bien sûr le changement d'image du pays international et évidemment de donner aussi envie au plus grand nombre de venir faire du tourisme par exemple, et à ceux qui en ont les moyens de venir carrément investir, changer d'image donc aussi évidemment après l'annexion de la Crimée, le soutien aveugle à Bachar al-Assad est plus près de nous, ce qu'il faut bien appeler le cas Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien emprisonné pour terrorisme qui compte aujourd'hui même 1 mois de grève de la faim pour réclamer sa libération et dont la santé détériorée menace maintenant la quiétude du Kremlin tout à son mondial de football.
Voilà pour les nombreuses ombres au tableau de cet événement. Et il est, vous l'avez dit, Claude Fort à Paris, que sur le papier, tout sera oublié ce soir pour le coup d'envoi du premier match. Russie-Arabie Saoudite avec un écho diplomatique fort. D'ailleurs, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman sera à Moscou pour l'occasion. Pourquoi faire, Claude ?
Alors, rapidement, c'est évidemment le moyen d'être aux côtés de la puissante Russie le temps d'un soir. C'est aussi l'occasion de vérifier la solidité des rapprochements de circonstances entre grandes puissances du pétrole. Message à peine voilé d'ailleurs à l'absent américain, pas qualifié pour le mondial, mais qui de toutes les façons, on s'en doute, ne serait pas venu.
Merci Claude Brouillot. Depuis Moscou ce matin, Emmanuel Macron, lui, ira en Russie si, dit-il, l'équipe de France passe les quarts de finale de cette compétition. L'ONU condamne fermement ce matin Israël pour les violences meurtrières à Gaza de la fin du mois de mars qui avaient fait 129 morts. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une large majorité une résolution en ce sens. En revanche, le texte présenté par les États-Unis pour faire condamner le Hamas pour ces mêmes violences, ce texte, lui, a été rejeté. L'ONU qui s'inquiète s'inquiète parallèlement de la situation au Yémen, réunion en urgence aujourd'hui. Après l'assaut lancé par les forces fidèles au président yéménite en exil, un assaut contre le principal port du pays, Hodeïda, qui fournit 70% des produits de matière de première nécessité aux yéménites en besoin. L'attaque a été menée avec le soutien de la coalition de l'Arabie Saoudite. L'objectif est de chasser les rebelles houthis. Les avions et les navires de guerre de la coalition ont donc pilonné les positions des rebelles pour faciliter ensuite la progression des troupes. Un assaut qui aura probablement des conséquences catastrophiques sur la population civile, écrivent 14 ONG internationales. Une lettre a d'ailleurs été envoyée au président français Emmanuel Macron. Fanny Petitbon de l'ONG CARE explique à Louis-Valentin Lopez leur demande.
La première chose, c'est une condamnation ferme de l'attaque en cours sur Hodeïda, puisque pour l'instant, la France ne s'est pas exprimée sur la question. Il faut absolument qu'elle mette tout son poids diplomatique pour mettre un terme à cette attaque. La deuxième chose, c'est la demande d'annulation de la conférence humanitaire qui est censée avoir lieu le 27 juin en collaboration avec l'Arabie Saoudite, parce que pour nous, il est impensable d'organiser un événement avec autour de la table des parties au conflit yéménite qui sont en train en ce moment même de mener une attaque contre des populations civiles et de parler de comment améliorer la situation humanitaire. Il faut absolument mettre un terme aux attaques contre les populations civiles et ne pas faire semblant de vouloir être en appui à ces mêmes populations. Et la troisième chose qu'on demande à la France, c'est de stopper toute vente d'armes et d'équipements militaires, que ce soit à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui malheureusement touchent les populations civiles yéménites.
La levée des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord se fera seulement après la dénucléarisation complète du pays. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo le précise ce matin. Il évoque une dénucléarisation vérifiable et irréversible, deux mots qui ne figuraient pas dans les documents signés à Singapour avant-hier par Donald Trump et par Kim Jong-un. Le déjeuner est prévu demain entre l'Italien Giuseppe Conte et le Français Emmanuel Macron est remis en cause par l'affaire de l'Aquarius. Le président du Conseil italien attend toujours des excuses de la part de la France. Le chef d'État français avait qualifié de cynique le refus de l'Italie d'accueillir des migrants. La rencontre de demain devait justement permettre de préparer un sommet européen à la fin du mois sur ces questions migratoires. Tension diplomatique donc, d'autant que l'ambassadeur de France en Italie a été convoqué hier, que la visite d'un ministre italien à Paris a déjà été annulée. Et que parallèlement, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, se rapproche de plus en plus de l'extrême droite autrichienne en Europe toujours. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz affirme même qu'un axe est en train de se créer entre Vienne, Rome et Berlin. Un axe contre l'immigration clandestine que le pouvoir autrichien dirigerait, Isorias.
Sébastien Kurz n'a pas retenu ses critiques ces derniers jours contre la politique migratoire de l'Union européenne. Il a réitéré son opposition au quota de répartition des demandeurs d'asile imposé par Bruxelles aux pays membres, veut revoir le mandat de Frontex, l'agence européenne chargée de la gestion des frontières. Le chancelier de 31 ans a même confirmé cette semaine que l'Autriche travaillait avec d'autres États à l'établissement de centres d'accueil de migrants en dehors de l'Union européenne. Le jeune conservateur cherche des alliés alors que l'Autriche doit présider le Conseil de l'Union dans un peu plus de deux semaines et veut donc croire à un axe Vienne-Rome-Berlin concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Mieux, Sébastien Kurz entend incarner le mécontentement de certains pays européens sur ces questions, tout comme il l'avait fait en 2015 lors de la crise des réfugiés. Alors ministre des Affaires étrangères, il avait été l'un des premiers à réclamer la fermeture de la route des Balkans, ce qui lui avait profité sur le plan politique en Autriche. Sébastien Kurz continue donc cette stratégie de fermeté en vue notamment des élections européennes de 2019. Mais avant cela, il y aura 6 mois de présidence du Conseil de l'Union européenne, 6 mois durant lesquels le gouvernement autrichien mené par Sébastien Kurz devra faire ses preuves.
Politique migratoire, l'Europe à la dérive, c'est le thème des matins de France Culture. Nous y revenons dans une dizaine de minutes. Des roses blanches, des photos des victimes, cérémonie d'hommage cette nuit à Londres. un an après la catastrophe de la tour Grenfell qui avait fait 72 morts dans un gigantesque incendie. Une enquête publique est toujours en cours pour déterminer si le drame aurait pu être évité. Les habitants avaient déjà alerté sur l'insécurité du bâtiment. Des banderoles ont donc été déployées cette nuit dans la capitale britannique pour réclamer justice. Et puis elle est la dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, l'humanitaire enlevée au Mali fin 2016 par un groupe lié à Al-Qaïda. Sophie Pétronin apparaît dans une nouvelle vidéo. Cette septuagénaire s'adresse à son fils et à Emmanuel Macron. Elle indique que la date d'enregistrement de la vidéo est le 7 juin, mais il est pour le moment impossible de le vérifier.
8h10 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Et c'est la troisième journée de mobilisation des retraites. Ce jeudi, des retraités.
Des retraités dans la rue, effectivement. Neuf organisations syndicales appellent à manifester un peu partout en France pour dénoncer la hausse de la CSG depuis le mois de janvier. 60% des retraités sont touchés, soit 7,5 millions de personnes. Les syndicats réclament aussi une revalorisation des pensions. Et c'est dans ce contexte qu'est publié ce matin un rapport du Conseil d'orientation des retraites. Il explique que dans le meilleur des cas, la caisse d'allocation retraite ne serait à l'équilibre qu'en 2036, soit dans 18 ans, Hugo Chesinski.
Le système des retraites va replonger dans le rouge. Lorsque la conjoncture est favorable, des emplois sont créés et des cotisations supplémentaires rentrent dans les caisses. Or, selon ce rapport, même si la croissance s'est améliorée, le trou du régime de retraite atteindrait 4,5 milliards d'euros en 2022. Les baisses des charges pour les actifs compensées par la hausse de la CSG pour les retraités ne convainc pas tout le monde et surtout pas Pascal Santoni du Bureau national de l'UCR-CGT.
Si on continue à supprimer les cotisations sociales, il y aura bientôt plus d'argent pour financer les retraites. On va vers une décroissance régulière qui peut être parfois assez brutale du niveau des pensions en France. Enfin, en tous les cas, c'est notre grande crainte. Le candidat Macron avait annoncé que c'est les pensions les plus aisées, disait-il, au-dessus de 1200 euros. En réalité, c'est pas le niveau des pensions qui est pris en compte, c'est le niveau du référent fiscal, ce qui change beaucoup de choses. Pour un couple de retraités, chacun et chacune ayant une pension du niveau de 900 euros, par exemple, sauf que comme c'est le référent fiscal qui est pris en compte, on ajoute les deux, et les deux payent une hausse de la CSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un couple de retraités qui est en dessous du seuil de pauvreté et qui paye la hausse de la CSG.
Des retraités qui pourraient bien se retrouver dans une situation encore plus précaire dans les années à venir. Car selon ce rapport, l'écart entre les pensions de retraite et les revenus des actifs va être amené à se creuser.
Au chapitre des chiffres qui font le yo-yo encore, les comptes de l'assurance chômage pourraient être à l'équilibre. En tout cas, son déficit devrait être divisé par deux cette année, puis descendre à 100 millions d'euros en 2019, selon l'UNEDIC. Et cela avant de renouer ensuite avec les excédents à partir de 2020. Ces deux prochaines années, par ailleurs, il pourrait y avoir 2 200 000 chômeurs en moins en 2018 et en 2019, donc toujours selon l'UNEDIC. Autant de données, autant de colères qui font réagir le sommet de l'État. Hier, au 42e congrès de la Mutualité française, Emmanuel Macron estimait que cela ne sert à rien de dépenser trop d'argent pour des politiques sociales qui ne fonctionnent pas. Il souhaite donc mettre en place des politiques qui favorisent la prévention des risques, qui responsabilisent les individus. Critique à gauche, scepticisme à droite sur la méthode employée. Invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, l'économiste Xavier Thimbaud, directeur de l'OFCE, lui veut répondre à Emmanuel Macron. Et dit-il, le haut niveau des prestations sociales en France a un effet positif sur la réduction des inégalités.
Si les inégalités avant prestations sociales et redistribution sont à peu près comparables en France et dans les autres pays développés. En revanche, après redistribution, c'est-à-dire une fois qu'on prend en compte l'effet des prestations, elles sont plutôt plus basses que dans les autres pays, ce qui montre que, ben, certes, on dépense beaucoup en prestations, mais avec un résultat qui est absolument incontestable, qui est que ça réduit les inégalités. Les inégalités de revenus, bien évidemment, mais elles permettent aussi de faire bénéficier aux familles de prestations sociales familiales, qui les aident à éduquer leurs enfants. Elles permettent de couvrir un certain nombre de risques, comme les gens qui sont malades et qui touchent des indemnités journalières, comme les femmes qui partent en congé maternité. Elles permettent de couvrir le risque de chômage. Donc, vous voyez, les prestations ne sont pas données. C'est pas un guichet auquel on se présente quand on a besoin d'argent. C'est un ensemble de critères qui ont été beaucoup revus, durcis, rationalisés dans le passé parce que la question se posait de savoir est-ce qu'on n'avait pas un système trop généreux, mais elles correspondent à des risques. Par ailleurs, elles correspondent non seulement à des risques, mais aussi à des cotisations de l'autre côté. Donc, certes, il y a des gens qui touchent des prestations, par exemple, pour le chômage, mais les salariés cotisent aussi pour le chômage. Donc, ils ont ouvert des droits, d'une certaine façon, qu'ils prennent au moment où ils sont touchés par un risque.
Xavier Timbaud avec Stanislas Vazak. La réforme ferroviaire est adoptée à l'Assemblée nationale. La prochaine et ultime étape au Sénat aujourd'hui. Pendant ce temps, l'intersyndicale appelle à poursuivre la grève des cheminots, prévoyant d'ailleurs une journée de mobilisation le 28 juin prochain. Cela, disent les syndicats, pour mettre la pression sur les négociations de la convention collective qui débute. La loi est adoptée, la grève doit s'arrêter, répond de son côté le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Le temps sera souvent nuageux ce jeudi, avec un ciel bien encombré sur les Pyrénées et sur le sud de la Garonne. Les températures de ce matin comptaient 16 degrés à Brest, à Paris, à Lille, 18 degrés à Strasbourg, 20 degrés à Lyon et à Bordeaux, 23 à Marseille.